À qui appartient la technologie ainsi que les profits et les bienfaits qu'elle entraîne? Il est évident que ce sont les inventeurs qui sont à la base des inventions et que leur production s'appuie sur un apport quelconque d'argent et de connaissances. Il faut certaines qualités personnelles et certaines opportunités pour arriver à mettre au point une trouvaille. Il faut aussi de l'aide, dans bien des cas, de la part d'une série de collaborateurs. Mais n'oublions pas que le développement matériel présent est le résultat du travail des humains d'hier et que l'enseignement scolaire, entre autres, est un bien et un résultat collectif que la société prête à presque tous les inventeurs. De plus, les organisations sociales ou gouvernementales sont souvent des aides et des intermédiaires précieux du point de vue monétaire ou de l'apport instrumental, recherche militaire ou universitaire. Dans tous les cas, l'argent provient de la base de la société, des travailleurs. Même lorsqu'il arrive en apparence par les sociétés privées ou les compagnies, on sait fort bien qu'il provient de profits faits sur le dos des travailleurs et des consommateurs de la base. La législation gouvernementale permet de se procurer de l'argent par prélèvement indirect, profit sur le travail, de tiers ou sur l'achat de produits quelconques. Le gouvernement lui-même se procure de l'argent par l'imposition, la taxation et indirectement par les amendes. Les groupes de charité ou d'aide quelconque s'en procurent, eux, par un processus de don, provenant également des gens de la base de la société. Ainsi, les inventeurs ne sont jamais les seuls participants à la création de leur invention. Ils sont aidés matériellement et mentalement. Les concepts nécessaires sur lesquels sont basées ces choses proviennent du développement mental et conceptuel des gens du passé et du présent, ainsi que de l'inspiration et parfois par télépathie, en provenance d'êtres qui président au développement mental et matériel de notre humanité. Souvent, les formes mentales d'un groupe de recherche d'un autre pays sont captées inconsciemment par un certain chercheur isolé. Ce dernier aboutit finalement à un résultat qu'il fait breveter avant tous les autres chercheurs qui sont eux aussi sur le point de réussir. Personne n'est jamais seul, n'agit vraiment seul ou est complètement détaché et isolé au point de pouvoir produire quelque chose de son propre et seul cru. Tout se fait en relation et avec la participation consciente ou inconsciente et directe ou indirecte des autres. La technologie est un résultat de groupes et de participations multiples et multidisciplinaires, et elle appartient à tout le monde. Conventionnellement, on en fait profiter à certains plus qu'à d'autres et on permet même des privilèges de propriété légale aux derniers artisans inventeurs, aux manipulateurs bien casés ou richissimes et aux opportunistes de tout poil. Mais nos sociétés sont submergées par toutes sortes de redevances et toutes ces choses sont basées sur du subjectif intangible, de telle sorte que la vraie économie de base ou la production substantielle de produits vitaux ne suffit plus à donner de la crédibilité à l'économie plus générale. Ce serait acceptable dans un monde où nul n'aurait besoin de manger et de protéger leur corps pour survivre. Sinon, il ne faut pas dépasser certaines bornes, car l'évidence de la supercherie se fait pressante et criante. Il faut un pourcentage minimum de substances pour assurer la simple survie, ainsi qu'une certaine tranquillité, absence d'explosion. Essayons de le bien comprendre. Dans cette veine, regardons de plus près ce qui arrive aux produits de la technologie. À cause de leur prix, ils sont achetés d'abord par les compagnies et mis entre les mains des employés pour améliorer leur productivité et pour les remplacer le cas échéant. Les bénéfices ainsi faits vont bien entendu aux propriétaires acheteurs. Du point de vue humain ou de la société humaine, il s'ensuit un appauvrissement incidentiel des individus et une spoliation inconsciente de la richesse collective faite par les entrepreneurs et les possesseurs d'entreprises et de compagnies. Les productions de consommation augmentent en même temps que diminue le temps de travail rémunérateur et l'argent qui en découlerait d'une façon globale. Mais les prix ne diminuent pas en relation équivalente à cette perte pour ajuster le déséquilibre provoqué. Alors, on voit la valeur de la monnaie gonfler jusqu'à l'éclatement. L'inflation apparaît ou augmente un peu à cause de ce phénomène et le plafond du nombre des chômeurs augmente et se fige à un plus haut niveau. La société doit recycler ses travailleurs et leur payer de nouveaux cours. Cela constitue un autre coût qui épuise ses réserves collectives dans le meilleur des cas. Mais c'est souvent le déficit total qui augmente pour appauvrir encore plus les payeurs de taxes de la base. Et à qui cela profite-t-il? Eh bien, aux institutions bancaires et à leur ouaille ou aux investisseurs qui agissent par des organisations prêteuses. Ainsi, l'apport par intérêt bancaire participe aussi à l'appauvrissement des gens de la base par partage du gâteau, graissage des rouages et vampirisation de la part des groupes de possesseurs de capitaux. Les joufflus peuvent ainsi acheter ou faire acheter à leurs pantins de nouvelles machines technologiques et électroniques plus perfectionnées, investir dans des recherches dans leurs laboratoires ou dans des laboratoires connexes ou réinvestir chez les maisons prêteuses. La roue se met à tourner et quelques bedaines gonflent tandis que celles des gens de la base, dans un pourcentage